Faut-il constamment innover pour durer? Quelle attitude entrepreneuriale contribue à cultiver l'innovation au sein d'une entreprise pour en faire un vecteur de croissance à long terme? Dans cet épisode de Libre-Échange, on parle de l'innovation au profit de la pérennité des entreprises. Sur le terrain, Marie-Hélène Lépine et Gabrielle Lépine de l'entreprise Aéromag, Mathieu Talbot de Desjardins Entreprises et Louis-Félix Binette du Mouvement des accélérateurs d'innovation du Québec. Je m'appelle Isabelle Maréchal. Bienvenue à Libre-Échange. Marie-Hélène, Gabrielle, merci d'être là. Aéromag, c'est une entreprise qui a été créée par votre père, Mario Lépine, qui travaillait à l'époque dans l'aviation. Aéromag, on peut dire, c'est vraiment une entreprise basée sur l'innovation, le dégivrage des ailes d'avion. Depuis le début, l'innovation a fait partie de votre croissance.
Oui, absolument. Notre père, Mario, a vu une nouvelle façon de faire, plus efficace et de manière plus sécuritaire. Le dégivrage se fait avec un opérateur au lieu d'être deux opérateurs dans le camion. Également, l'innovation que le dégivrage se fait des moteurs en marche.
En 1994, personne ne faisait ça. Puis c'est ça vraiment qui nous a...
Propulsé
oui. Pour les prochains 10 à 15 ans. Quelques années plus tard, on gagne un grand contrat avec Aéroport de Montréal en partenariat pour bâtir le plus grand centre de dégivrage, qui est toujours à ce jour un des centres les plus avancés au monde côté technologique, mais bâti en 96. Ça démontre que avec les bonnes personnes bien entourées, on est capable de bâtir quelque chose qui dure longtemps sans lui retoucher, qui est un investissement qui est maintenant très, très fier.
Oui. Après ça, donc, le fameux glycol... Arrive cette innovation-là?
Oui, exactement. Donc, non seulement depuis le tout début, on récupère le glycol, le produit dégivrant, mais maintenant, on le recycle.
Fait que l'innovation est synonyme d'efficacité, on l'aura compris. Donc, avec efficacité, il y a productivité, parce qu'on a vu qu'au niveau de la main-d'œuvre aussi, c'est plus économique, mais c'est, dans le fond, c'est pour économiser des coûts, là.
Oui.
Je parle à la chef des finances ici, surtout.
Exactement. En bout de ligne, notre client, c'est société aérienne, mais ouais. C'est monsieur et madame tout le monde qui prend l'avion, qui paye son billet d'avion.
Voilà.
Donc, l'idée en tout ça, c'est de pouvoir rendre un service à un coût qui est compétitif et qui fait du sens. Est-ce qu'on est les moins chers? Non. Est-ce qu'on est les plus efficaces? On est dans les plus efficaces, c'est sûr et certain. Tout ce qu'on fait, c'est tout le temps penser, est-ce qu'on peut mieux le faire? Est-ce qu'on peut sauver des coûts? Est-ce que ça peut être fait d'une autre manière, plus sécuritaire? On se challenge tout le temps, à chaque jour, avec toutes nos gens autour de nous pour vraiment rendre un service, un produit qui est le meilleur sur le marché.
Et l'innovation est tellement porteuse chez Aéromag, Gabrielle, que vous êtes aujourd'hui dans 18 aéroports un peu partout, surtout en Amérique du Nord, en Angleterre également.
Exactement. 18 aéroports, alors 16 en Amérique du Nord et 2 en Angleterre, Londres et Manchester. Puis on est chanceux, on a toute l'équipe au complet chez Aéromag. Est vraiment passionné avec ça.
Mais une équipe qui a grossi, là. Vous êtes beaucoup de monde aujourd'hui.
On est, 300 à peu près à temps plein et un petit peu en 2000 durant l'hiver avec toutes les équipes à travers le monde.
Ouais. Quand on a des ressources humaines comme ça qui sont un peu partout, innover puis en même temps gérer tout le monde un peu partout, comment on fait ça?
Oui, on s'ennuie pas, on fait pas la même chose à chaque jour, ça c'est sûr et certain. Donc c'est d'essayer de développer des standards qui vont être suivis partout. Parce qu'on s'entend, notre bureau chef est à Montréal, mais comme tu l'as dit, on est dans 17 autres aéroports à travers l'Amérique du Nord et l'Europe. Donc, on peut pas être partout en même temps. C'est sûr, c'est la confiance dans nos gens, mais c'est aussi la communication avec tous nos employés. Puis, on dit employés, mais collègues, partenaires. À chaque année aussi, on fait une conférence annuelle où est-ce que nos managers viennent à Montréal pour faire une semaine là, intense. On dit, OK, on fait nos sommaires. Qu'est-ce qui a bien fonctionné, moins bien fonctionné? Qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place? Oui, on fait le dégivrage d'avion, mais aussi les gens passent tellement de temps au travail. Donc, on veut que ça soit le fun, que ça soit bien, que les gens soient à l'aise. Donc, on essaie de se pousser puis de développer différents comités, différents projets pour que tous nos gens soient challengés au niveau qu'ils ont besoin de l'aide.
On est très, très, très ouvert, extrêmement ouvert à des innovations, des projets avec tous nos employés. Il y a plusieurs projets qui n'ont pas fonctionné. On a appris avec le temps. Puis, il y a une des grandes facettes ou les grands avantages qu'on a appris, c'est qu'on commence très petit avec n'importe quelle innovation. On le teste. On donne beaucoup d'outils à n'importe qui a une idée, qui veut la tester. lorsqu'elle est prête, on la teste à un petit peu plus grande échelle. Lorsqu'on est prête, bien là, OK, on va confirmer est-ce que ça peut vraiment fonctionner, est-ce que ça peut être implanté partout. Une fois qu'on y a pensé, on passe des mois, des mois, des fois ça peut être 8 mois, 10 mois, comme notre projet d'intelligence artificielle, bien là, OK, boum, on y va, on implante ça partout dans le système.
Fait que vous avez comme un incubateur au sein d'Aéromag, c'est presque ça. Là, ça fait sourire Louis-Philippe, il dit oui, bravo, c'est ça qu'il faut, n'est-ce pas?
Absolument, la culture d'innovation, c'est un travail.
Et comment on génère ça, une culture d'innovation, Louis-Philippe?
D'abord, la première recette pour la culture d'innovation, ça prend une intention qui vient de la tête.
Ouais.
Là, je pense que votre père était clairement quelqu'un qui tolérait pas le statu quo, qui disait
absolument pas.
Si on peut faire quelque chose de mieux, je vais prendre la responsabilité, je vais le faire. Fait que je pense que ça commence de la tête. Il faut que l'innovation dépende directement des dirigeants. Mais après, c'est la volonté d'essayer des choses, puis de permettre aux gens qui vivent les problèmes sur le terrain. L'innovation, ça vient pas. On n'invente pas ça dans un bureau. Là. On est sur le terrain pendant qu'on essaie quelque chose. Moi, il me semble que ça pourrait marcher mieux. Donc, de permettre à des employés de dire, il me semble on pourrait faire cette pratique-là mieux. Puis, quelqu'un dans un aéroport qui pense à une façon de faire. Puis, on dit, OK, essaie de rendre ça, c'est-tu opérationnalisable. Puis après, ça peut passer sur chacun des sites. Donc, il y a quelque chose là qui est vraiment bien. Puis, un des secrets aussi de réussir sa culture d'innovation, c'est de lancer beaucoup de projets, mais de pas hésiter à en tuer, en disant, si on l'a essayé, ça marche pas, on va pas s'obstiner, on va prendre nos énergies puis les mettre sur des nouveaux projets. Et peut-être la dernière chose, c'est de jamais dire, ah, l'intelligence artificielle, c'est pas pour nous, etc. De pas être en mode, on attend, on va voir ce que ça va donner. Non, on essaye encore une fois, on prend pas des grands risques, on risque pas toute la baraque sur l'intelligence artificielle, mais on essaie un petit projet, on dérisque, on prend des données, on élargit. C'est dans toute l'entreprise, la culture d'innovation est là.
Ouais, et justement, Gabriel, je pense que l'innovation aussi chez Aéromag, ça passe par les logiciels. Vous avez vous-même développé vos propres logiciels?
Tout à fait. Alors, on aime ça résoudre les problèmes. Mais le dégivrage, on aime déjà maximiser combien de temps, comment rapide on peut dégivrer un avion. C'est comme nettoyer son auto le matin avec un balai de neige. Tu peux pas aller plus vite que la physique. Mais il y a plein d'autres...
Ça prend combien de temps pour notre curiosité?
On parle de dégivrer un avion, normalement, on va dégivrer, ça va peut-être 6 minutes. Par contre, on est en contrôle du processus pendant 12 à 15 minutes. Alors, il y a vraiment beaucoup de temps qu'on peut travailler pour maximiser à l'extérieur du temps de dégivrage.
Et c'est tellement rapide!
Ouais. Mais ça paraît... Même moi, dans l'avion, ça paraît tranquille, là. Ça paraît très slow, là. Parce que je dis, on aurait pu faire ça comme ça mieux. On aimerait vraiment s'améliorer. Mais c'est là que avoir des logiciels qui suivent nos processus ou tous ces logiciels-là créent des données. Puis là, voir faire des tests avec l'intelligence artificielle, qu'est-ce qu'on peut faire pour être plus efficace de ce point de vue-là.
Ouais, puis l'efficacité, c'est aussi un mot-clé chez vous, hein, Desjardins, Mathieu. C'est magnifique quand on entend une entreprise comme Aéromag, parce que l'innovation, vous, c'est beaucoup aussi votre fer de lance.
Absolument.
Une entreprise qui est couverte comme ça sur tous les aspects de son innovation, ça fait partie de sa structure stratégique, Mathieu.
Puis c'est ce qu'on a acheté aussi dans l'histoire à Aéromag.
Oui, c'est
cette innovation-là, cette culture de se donner droit à l'erreur, de commencer petit. Hein, sont très, très humbles. Là, on les écoute depuis tantôt. On est quand même dans 18 aéroports.
C'est impressionnant.
Au niveau planétaire. Là. Fait que, mais c'est aussi ce qu'on aime chez Aéromag. C'est cette capacité-là de prendre les projets, de les mener à bien, mais de les commencer petit pour gérer les risques, y investir temps, argent, mais éventuellement de les déployer. Tu disais tantôt, ça en prend pas mal de projets pour un moment donné être capable d'en faire ressortir une coupe là, de bons. Mais c'est ce qu'on a vu avec les années, puis c'est ce qu'on aime là, de l'innovation du groupe.
Et comment Desjardins accompagne Aéromag?
Alors nous, c'est une histoire, en fait, c'est une grande histoire d'amour de, je dirais, de maintenant près de 15 ans. Puis tu sais, ça a commencé, on l'a dit tantôt, hein, ça a commencé tout petit par des financements à la pièce. Puis c'est pas tous les partenaires financiers qui arrivent à se rendre confortables autour de l'histoire. Mais une fois qu'on rencontre les gens, une fois qu'on rentre dedans, puis qu'on se donne le temps de comprendre ce qu'est Aéromag, qui est plus que juste du dégivrage en passant.
Oui, c'est ça.
Eh bien, je pense que c'est là qu'on apprend vraiment à le connaître. Puis c'est 15 ans d'innovation de notre part aussi, hein, parce qu'à un moment donné, là, tu sais, un aéroport, puis une flotte de camions qui est passée de un camion à plus de 300 aujourd'hui. On est peut-être sorti à un moment donné un peu des paramètres classiques de financement à la base, mais c'est vrai qu'au départ, c'était peut-être un peu audacieux, un peu compliqué à comprendre. On a décidé de jouer l'entrepreneur, qui est Mario, puis aujourd'hui, ben, on accompagne la relève là, dans cette histoire-là. Là.
Une relève, Gabriel et Marie-Hélène, qui a aussi comme valeur très profonde chez vous, c'est important de l'environnement, hein, les principes ESG, environnement, social, gouvernance, mais l'environnement, vous me parliez du recyclage du fameux glycol, qui est quand même un produit chimique,
c'est
on peut dire.
Hein? Massif, ouais.
Les deux, on a des jeunes enfants, puis on veut laisser une meilleure planète à nos enfants.
Ouais.
Puis en apprenant plus, le glycol a un impact en termes de CO2 deux fois pire qu'un du diesel ou de l'essence. Alors, c'est pour ça que maintenant, on focus énormément sur le recyclage du glycol, parce que si on le fait pas, ben il faut payer pour que quelqu'un d'autre le traite, puis en plus, il faut repayer d'autres glycol pour en acheter. Alors, à la place, on aime mieux être en charge nous-mêmes de notre propre destin. Alors, on investit avec nos partenaires financiers pour des centres de recyclage, les rendre le plus technologiquement avancés.
Donc, possible. Vous le récupérez, vous le retraitez et vous le réutilisez. C'est l'économie circulaire au sein même de votre entreprise.
Exactement, ouais. Exactement. Donc, on veut vraiment avoir un impact positif, comme Gabriel disait. Et à d'autres aéroports même, qu'est-ce qu'on fait? Si l'aéroport est plus petit, mais l'infrastructure est là pour nous permettre d'avoir une usine de recyclage, eh bien, on regarde, OK, est-ce qu'on peut récupérer du glycol usé de d'autres aéroports, le ramener à cet aéroport-là, le recycler et le réutiliser?
Mais bravo, parce que vous contribuez à rendre une industrie qui est connue pour pas être très écologique, mais vous contribuez à la rendre beaucoup moins polluante.
Du mieux qu'on peut, absolument.
Exact.
Oui.
Mathieu, on parle d'innovation en affaires. Évidemment, on a parlé tout à l'heure un peu de l'investissement que ça demandait, de l'importance d'un partenaire financier qui comprend bien ce que l'entreprise fait. Vous avez choisi, dans le cas d'Aéromag, de créer un syndicat bancaire.
Oui, absolument. Bien, on a créé avec Aéromag, en fait, à leur demande aussi, là, parce que la façon dont l'entreprise a cru au fil des années, aéroport par aéroport, financement d'actifs par financement d'actifs, ça devient lourd à un moment donné pour l'entrepreneur. Là. Tu sais, je me souviens plus, Marie-Hélène, du nombre de financement qu'on avait quand on a créé le syndicat bancaire, mais c'était...
Beaucoup, c'est...
Un nombre important, là.
Oui, oui, au moins, j'irais une dizaine.
Donc, une dizaine de financements qui, eux, viennent à échéance, qui ont des termes et à des moments différents, qui ont des termes et conditions qui sont bien différentes. Et puis, il y avait un plan de croissance pour l'organisation aussi. On a parlé beaucoup d'innovation. Ça demande de l'investissement.
Oui, c'est ça.
Et quand on parle d'intelligence artificielle ou quand on parle de recyclage, ben tu sais, ça prend... Faut comprendre l'histoire Aéromag, mais aussi, ça c'est des projets qui demandent peut-être un petit peu plus de temps. Et donc, avec, je dirais, la masse critique que l'entreprise avait à ce moment-là, on était capable de venir déposer un financement un peu parapluie, si on veut, sur l'ensemble des activités. Donc, l'ensemble des revenus qui est généré, l'ensemble des actifs qui est là. Puis le concept ici de syndication bancaire, c'est donc qu'on a invité d'autres partenaires financiers, en l'occurrence certaines banques, qui sont venues joindre le financement de Desjardins. On a créé une enveloppe de financement qui est plus large.
C'est créatif?
Qui est créatif, hein? Effectivement, et qui facilite, je pense, aujourd'hui là, la vie de l'entreprise au quotidien là, pour déposer dans des appels d'offres, par exemple, ou faire des nouvelles acquisitions d'actifs. On n'a plus besoin d'expliquer actif par actif, de nous reprendre les garanties puis de sortir un financement pour l'actif spécifique. On a une grande enveloppe qui permet de supporter un certain montant de financement. Et à même cette enveloppe-là, on vient chercher des fonds pour faire justement
de l'innovation.
Projets.
Voilà.
Exactement.
Donc, ça vous garantit d'une certaine façon aussi le déploiement d'une stratégie d'innovation, là?
Absolument.
Tout à fait. Puis, non seulement d'innovation, mais ça nous permet parce que le déjouage des avions, ça se fait pas sans camion.
Oui.
Alors, quand on commence à négocier un certain contrat pour renouveler une flotte de camions dans un aéroport, ça se fait des mois en avance.
Ouais.
Mais nous, avec un syndicat bancaire, on est capable d'aller réserver ces camions-là de notre fournisseur en avance et ensuite de ça, les amener plus tard lorsque le contrat est signé dûment. Alors, on est capable de tout gérer ça ensemble grâce à une syndication bancaire parapluie qui nous sert qu'on puisse acheter beaucoup de camions ou réserver des camions.
Louis-Félix, vous voulez rajouter?
Par curiosité, pour un ordre de grandeur, là, ça coûte combien un camion de dégivrage neuf? Puis vous en avez combien des camions dans votre flotte?
Ce qu'on achète, ce qu'on aime le mieux, c'est une compagnie familiale au Danemark. Ça coûte environ 1,5 million canadien, 1 million US. Puis on a au-dessus de 336 il y a deux mois, puis on en achète une trentaine en ce moment.
Et Mathieu, vous accompagnez les entreprises dans le déploiement de leurs innovations. Là.
Absolument, absolument. Puis on utilise les actifs qui sont là aujourd'hui, qui produisent des revenus pour permettre de faire de l'innovation. Tu sais, on parlait de projets qui commencent petits, qui éventuellement vont devenir, je dirais, déployés dans l'ensemble de l'entreprise. Mais au départ, il faut investir des sommes quand même en innovation. Là.
Ouais.
Puis c'est pas nécessairement générateur de revenus demain matin. Donc, ça permet pas nécessairement de l'isoler, faire un financement directement dessus. Donc, en utilisant une syndicat bancaire ou un financement, je dirais, plus parapluie, c'est comme une grande marge de crédit. Ben, à ce moment-là, ça permet à l'entreprise d'avoir accès à ces fonds-là. Puis c'est tout un processus, Isabelle. Là, ça semble facile, vite fait, mis en place, là, mais je vois...
ça a pris 20 ans.
J'y vois rien. Ça prend quand même un certain temps parce qu'on regroupe un ensemble d'institutions financières autour d'une histoire qui avait ses défis à raconter. Nous, ça faisait déjà 10 ans qu'on était en affaires avec Aeromag, fait qu'on la connaissait, l'histoire. Il y avait pas trop d'enjeux, mais il fallait amener d'autres partenaires à table, leur faire comprendre l'histoire.
D'ailleurs, Mathieu, tout à l'heure, Marie-Hélène parlait de l'importance, et Gabriel, des ESG. Là. On a beaucoup parlé de rénovation en matière d'environnement, la récupération, le recyclage, tout ça, du glycol. Est-ce que c'est important pour un partenaire financier qu'une entreprise soit vraiment axée sur l'ESG, sur... ces valeurs-là, parce qu'on peut parler de valeurs, hein, c'est carrément ça.
Oui, absolument. Puis c'est, je dirais, c'était très important à l'époque. Puis ici, on a vraiment une entreprise qui est précurseur en la matière. Mais je dirais, aujourd'hui, ça s'est juste accéléré, Isabelle.
C'est un passage obligé, vous diriez?
C'est un passage obligé. C'est pas une mode. Ouais. Je pense que la société doit évoluer. Là, puis on n'ira pas à ce niveau de discours-là, mais nos entreprises, même nous, en tant qu'institution financière, on doit évoluer. Les entreprises que l'on finance, on s'attend à ce qu'elles évoluent aussi. Évidemment, on est dans un mode d'accompagnement. Il n'y a pas personne qui s'attend à ce que tout change demain matin. Mais oui, c'est hyper important. C'est sûr, dans le cas d'Aeromag, l'histoire, parfois, peut être un peu compliquée, mais en même temps, du point de vue ESG, elle était bien en avant de la parade. Je me souviens plus des taux de récupération puis de recyclage, mais on est à des niveaux qui sont presque à 100 %.
Oui. Tout à fait, exact. On récupère presque 100 % de ce qui est appliqué à Montréal. Alors, non seulement on réutilise le glycol, mais à Montréal, on réutilise pratiquement 5 millions de litres d'eau par année qu'on mixe dans nos camions au lieu d'aller chercher de l'eau potable dans le système.
Et ça, c'est votre prochaine innovation, je pense, Gabriel.
Oui, totalement, exactement.
Alors, le traitement des eaux usées.
Le traitement des eaux usées. Alors, bien sûr, notre système, on pourrait faire plein de différents alcools très intéressants. Par contre, c'est pas ça qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse vraiment, c'est utiliser nos mêmes machines, notre même nouvelle technologie qui est même implantée à Syracuse, recycler d'autres eaux contaminées avec des produits chimiques. Donc, on peut utiliser le même système ailleurs.
Ouais. Je pense que nos entrepreneurs, ce qu'il faut qu'ils comprennent, c'est qu'il y a plein de petites choses à faire. Ici, on a un super bel exemple d'une compagnie qui n'avait pas cette nouvelle tendance ESG-là dans le collimateur, mais qui se disait, OK, nous autres, on va innover, on va faire mieux. Ils n'ont pas nécessairement attendu qu'on se rende compte qu'on avait trop pollué puis que les cours d'eau étaient trop pollués. Ils l'ont fait d'emblée.
Louis-Félix, vous qui êtes dans l'incubation d'entreprise, vous en voyez beaucoup, là, ces valeurs-là, ESG, très important, vous diriez que c'est...
C'est central. Le Québec se distingue sur la planète par son taux de réponse sur la raison qui motive à entreprendre. T'sais. Je veux rendre les choses meilleures. Et ça, c'est une valeur clé, mais quand tu sais que tu veux améliorer le monde, t'es pas en train de demander comment je peux faire d'argent. T'es pas dans la course au plus bas prix. T'es dans la course à faire une différence, à faire quelque chose qui est significatif. Puis je pense que dans l'histoire d'Aeromag, quand on la regarde, c'est ça qui est fantastique. C'est une opportunité, t'sais, votre père a vu une opportunité de faire un processus de façon plus efficace, des girages. Puis depuis, ça s'est jamais arrêté.
C'est ça.
Ce qui est fun, c'est que...
C'est ça qui est fascinant.
Malgré la transition générationnelle qui devrait se passer, ça se poursuit.
Pour un partenaire financier comme Desjardins, ça veut dire accompagner au-delà du financement. Là. C'est vraiment même jusqu'à une certaine prise de risque.
Ben absolument. Oui, absolument. Il faut être prêt à prendre un peu de risque. Je pense que ça prend du courage de la part des institutions financières. Tu sais, on a un rôle à jouer dans tout ça. Évidemment, on en prend avec Aeromag. On en a pris au fil des années. C'est sûr qu'avec le temps, je pense que s'installe aussi peut-être une certaine forme de zone de confort, dans le sens où on les a vus opérer. Là, tu l'as dit, Marie-Hélène, c'était compliqué un peu au début. Ça prenait une institution financière qui était capable de voir au-delà là, de juste ce qui était écrit sur papier. Fait qu'on en a pris. Maintenant, c'est une capacité de livraison. Hein, tu sais, parce que quand on finance une entreprise. Oui, on achète un modèle d'affaires, on achète un créneau, mais on achète un groupe d'entrepreneurs aussi. Puis ça, c'est hyper, hyper important. Puis chez Aeromag, ben, tu sais, je pense qu'on a acheté des gens de vision. Mais oui, tu sais, en ESG, il faut être capable d'en prendre un peu de risque. Puis c'est notre rôle, en fait, d'accompagner pour voir quels sont les risques, les opportunités de notre point de vue à titre de financier, et puis d'aider à financer, en fait, la transition. Là. Ça fait partie de ce qu'on fait.
On parle de l'importance de l'innovation dans le succès et la croissance d'une entreprise comme Aeromag. Louis-Félix, il y a des clés pour bien innover?
Oh, il y en a plusieurs. Je pense que la première chose qu'il faut garder en tête, c'est pour innover, il ne faut pas être en amour avec la solution qu'on développe. Il faut être en amour avec le problème qu'on cherche à régler. Puis il faut devenir tellement amoureux de notre problème qu'on le comprend. On est capable d'étendre notre compréhension du problème plus vite que nos compétiteurs. Et après ça, les solutions viennent. Les technologies qui supportent les solutions peuvent changer. On va changer de technologie, on va continuer à essayer de régler le problème, d'apporter de la valeur à nos clients. Puis l'exemple qu'on vient d'avoir aujourd'hui est absolument exceptionnel.
Est-ce qu'il y a des erreurs qui peuvent être faites en cours de route?
Absolument.
L'innovation, on a l'impression souvent que c'est essai-erreur. On essaie quelque chose, on pense, on patente ça dans le garage ou dans... Puis on se rend compte que finalement... Ou dans l'incubateur, ouais. Puis on se rend compte que c'était peut-être pas la bonne façon de s'y prendre.
Des erreurs doivent être faites. On peut pas innover sans faire d'erreurs. On peut pas penser innover si on se refuse le droit de faire des erreurs. Donc, dans une organisation, on va regarder... Je vais donner un chiffron, peut-être à l'échelle d'Aeromag, une vingtaine d'opportunités d'amélioration qu'on peut avoir, là... Quand la saison hivernale est terminée, vous avez dit, bon, qu'est-ce qu'on pourrait faire cette année? Qu'est-ce qu'on pourrait améliorer? Faites la liste. Vous pouvez pas dire, on va essayer d'améliorer juste la chose qu'on est sûr qu'elle va marcher. Parce qu'on sait pas dans les 20 choses, que ce soit une amélioration d'un processus, d'une façon de communiquer, d'une façon de compiler les data, ou une innovation technologique, l'intégration d'un nouveau produit qu'un de nos fournisseurs amène, qui permet d'améliorer le recyclage de l'école. On peut pas avancer là-dedans en sachant d'avance lequel de ces produits-là, lequel de ces projets d'innovation-là va porter fruit. Donc, une stratégie d'innovation, ça implique d'embarquer en disant, on va essayer 20 choses, puis s'il y en a 5 qui réussissent relativement bien, on va être content. Un investisseur en capital de risque, il fait ça. Il investit dans 20 startups, sachant que la moitié des startups feront jamais de profit, peut-être même jamais de revenus. Il y en a une autre partie qui vont arriver un peu à peut-être atteindre une forme de rentabilité, puis il y en a une ou deux qui va faire tellement d'argent qu'elle va refaire tout le fonds. C'est ça, le capital de risque fonctionne comme ça, mais le capital d'innovation, c'est la même chose. Puis, ça m'amène peut-être à l'autre élément clé de l'innovation. On tend à penser que innover, c'est aller vite. On confond souvent.
J'allais vous le dire qu'une des erreurs, c'est peut-être de dire ça va être vite, ça sera pas cher.
C'est pas aller vite, c'est de trouver le bon phasage, les bons terrains de jeu, établir la confiance avec les employés, avec les fournisseurs, avec les aéroports. Et on le voit dans une entreprise qui est établie. Nous, en incubation, on va regarder des Aeromag de ces premières années, puis on va essayer de s'assurer que le développement de l'entreprise se fait vraiment autour d'un, comme je disais, l'amour du problème. Puis après ça, la croissance, elle vient du fait qu'on réussit à amener des solutions puis ajouter des couches de solutions de complexité puis éventuellement, ben, de passer de l'intégration d'une technologie très spécifique à devenir vraiment un portefeuille de solutions aéroportuaires liées à l'hiver, mais pas nécessairement juste liées à l'hiver parce qu'on va dépasser ça bientôt.
Mais vous dites, Louis-Félix, vous parlez beaucoup de start-up, mais une entreprise, parce que vous n'êtes pas une start-up, Aeromag.
L'avez déjà été?
Oui, il y a longtemps, oui. Mais est-ce que ça peut aussi, l'innovation peut aussi s'inscrire chez une entreprise qui avait jamais pensé que l'innovation allait être son core business ou faire partie de son centre?
C'est le même principe. Tu sais, c'est un peu la loi du nombre. On peut pas sortir d'innovation si on n'envisage pas plusieurs éléments sur lesquels on peut avancer.
Mais tu sais, quelqu'un qui se dit, bon, nous, on n'a jamais vraiment investi là-dedans, mais on n'a plus le choix aujourd'hui, que ça soit ESG ou autre, faut qu'on investisse en innovation. Ouais. Ça se peut.
Oui. Je pense que la pire chose à faire, c'est de dire, on va investir en innovation, on va choisir un problème, puis on va le régler. Non, on va identifier
plusieurs
un tas de problèmes, on va donner des outils, on va permettre à nos équipes de dire, saisissez-vous d'un problème, imaginez des solutions, investissez, 10 % ou 20 % de votre temps, voici un petit budget pour explorer comment on pourrait régler cette solution-là. Si au bout de 3 semaines ou 3 mois, les solutions qui n'ont pas donné des résultats probants, on les abandonne. On essaye autre chose. Ouais. Les résultats qui commencent à montrer des résultats, c'est prometteur. Ils ont dit, ben on va remettre un autre montant d'argent, mm-hmm. dépendant de l'entreprise, ça peut être 5 000 ou 100 000 On va remettre un autre montant d'argent, puis on va se donner un autre 6 mois. Puis on va voir si en 6 mois, on est capable d'améliorer. On va, ouais. on va phaser, mais on va faire du nombre.
Parce que Mathieu, puis Gabriel et Marie-Hélène, ultimement, ce qu'on veut quand on parle d'innovation, c'est la propriété intellectuelle aussi là, qui est intéressante à la fois pour le partenaire financier, puis pour vous, quand je disais tout à l'heure, vous êtes précurseur dans telle innovation, telle autre, c'est que ça a une valeur vraiment importante. Là.
C'est extrêmement important et on s'est concentré énormément sur les innovations et peut-être moins sur la propriété intellectuelle dès le début. Donc, on a dû faire un peu de rattrapage à ce niveau-là pour sécuriser aussi cette valeur-là, cet actif. Hein. C'est un actif, une propriété intellectuelle, veut pas. Et il y a aussi des gens qui veulent tout le temps copier, imiter et tout ça.
Et ça, vous en tenez compte chez Desjardins, par exemple?
Mais c'est sûr, absolument, ouais, parce que oui. c'est attaché dans le modèle d'affaires. Là, oui, c'est important qu'elle soit mise en valeur, qu'elle soit protégée par l'entreprise, là, parce qu'on y accorde la valeur.
Oui, Félix, il y a des programmes d'accélération. C'est important, ces programmes. Comment ils s'appliquent comme innovation?
Ben, les programmes d'accélération, ça s'adresse, on va dire, aux startups dans le but de leur faire franchir, c'est pas d'aller plus vite, c'est leur faire franchir plus rapidement les étapes clés qui leur permettent d'avoir un produit. Mais non, les programmes d'accélération sont adressés aux startups. Les startups, ils sont dans la vallée de la mort. Si on trouve pas un marché ou un partenaire dans lequel implanter leur technologie, ils vont finir par manquer d'argent. C'est celle-là la différence entre une bonne PME établie qui choisit l'innovation. C'est dans le fond, vous êtes une PME, vous êtes un opérateur. Fait que vous faites votre argent en faisant des bonnes opérations. Donc, à un moment donné, tu peux pas juste rentrer de la disruption dans tes opérations parce que tu payes ton salaire, tu payes le salaire de tes employés en faisant des bonnes opérations. Mais en utilisant votre terrain d'opération pour tester des nouvelles façons de faire, capter la valeur en protégeant la propriété intellectuelle, là, c'est pas votre salaire que vous payez, c'est votre pension.
C'est ça.
Vous êtes tourné vers l'avenir. Fait que vous êtes en train vraiment d'investir, de créer ce qui va donner de la valeur ultime à votre entreprise, que vous choisissiez de la vendre, de passer en mode acquisition ou de la passer à la prochaine génération. Donc, l'avantage que vous avez, c'est que l'accélération de votre innovation, vous maîtrisez aussi le terrain dans lequel vous pouvez la faire. Puis après, c'est la méthode. Mais quand on prend une start-up qui développe juste un produit, une innovation, un brevet, puis elle essaie de le vendre, là, c'est une petite particule qui est dans des vents contraires, puis nous, on veut essayer d'accélérer cette particule-là vers le marché. Mais vous le faites, vous faites de l'accélération sans vous en rendre compte, sans faire un programme d'incubateur-accélérateur.
Merci beaucoup, Louis-Félix. Mathieu, merci infiniment. Merci à nos entrepreneurs, Gabriel, Marie-Hélène, vraiment, c'est un modèle d'entreprise fabuleux. Moi, je connaissais pas Aeromag, mais je pense qu'aujourd'hui, tout le monde, dans un avion, on va vous regarder et on va se dire « Oh, allô, on va vous saluer, on sait que c'est fait au Québec et que c'est une entreprise d'ici. » Merci beaucoup à tous les deux. Libre-échange est une présentation de Desjardins Entreprises. Je m'appelle Isabelle Maréchal. Je me suis entretenue avec Marie-Hélène Lépine, vice-présidente exécutive finance, services administratifs et corporatifs, et Gabriel Lépine, vice-président exécutif opérations et développement chez Aeromag. Mathieu Talbot, vice-président services aux entreprises et financement corporatif chez Desjardins, et Louis-Félix Binette, directeur général du mouvement des accélérateurs d'innovation du Québec. Suivez-nous sur votre application de balado préférée et sur la chaîne YouTube de Desjardins. Thank you.